Philippe Steinmann, Vengeance de l'impératrice, roman, préface. La ville éternelle se remettait lentement d'une guerre civile. Cette guerre avait enterré des milliers de gens, fait s'entretuer les citoyens pourtant habitués depuis des siècles à ce qu'ils appelaient une république. Le petit peuple en avait subi de lourdes conséquences. Il fallait reconstruire une Rome de marbre pour remplacer celle de brique. Les gens vivaient au jour le jour. Les esclaves s'étaient révoltés. On avait réglé des comptes obscurs entre voisins de rue. La pauvreté est devenue courante. Avaient régné les délations, les trahisons, les coups bas. Des enfants sans parents survivaient en bandes, hâves, maigres, violents. Agitation en Italie, en Grèce, en Égypte, au Moyen-Orient, sur mer, dans les provinces. Un homme vint à bout de toutes ces horreurs. Caius Octavius, parfois dit Octavianus, petit-neveu, puis fils adoptif du déjà célèbre Jules César, assassiné en mars 44 avant Jésus-Christ. Ce jeune Octave se sentit dès lors revêtu d'un devoir sacré, remettre en route le calme, la paix, la morale. Pourtant, en cette date fatidique, il n'avait que 19 ans. Mais une intelligence hors du commun, un orgueil à tout affronter. Par cette adoption, il se savait héritier d'un homme d'exception, mais en plus, il appartenait aussi à la famille des Julies, qui se disait cependant directe de Vénus, déesse de la beauté et de l'amour. Avoir soudain le tel ancêtre impliquait des devoirs, surtout des devoirs incontestables. À 24 ans, de sa femme Scribonia, il avait eu une fille, Julie. Presque aussitôt, ce jeune père fut pris d'une violente passion pour une jeune beauté de 19 ans, Livia Drusilla, épouse d'un Tiberius Claudius Néron. Il s'arrangea pour les faire divorcer. Lui divorça de Scribonia. À Rome, on échangeait les épouses qui ne protestaient pas, avantage bien compris. L'an 27 avant Jésus-Christ, débarrassé de tous ses concurrents, il avait été déclaré princeps, soit le premier d'entre les Romains. Il venait de fêter ses 36 ans. Cette fois, son nom et son titre l'exemptaient de repartir de Rome pour quelques nouvelles campagnes militaires. Il avait dès lors le pouvoir reconnu de nommer des généraux pour gérer le monde romain, établir partout une paix dont il avait besoin, et pour sa propre gloire, et pour celle de Rome. La paix romaine, la Pax Romana. Dans cette Rome qu'Octave voulait nouvelle, se réveillait aussi le monde des arts libéraux, surtout celui de la littérature. La jeune génération lisait l'historien Salluste, se passionnait pour Cicéron, dont le fidèle ami Pomponius Atticus avait sauvegardé la presque totalité de l'œuvre et sa correspondance. Octave avait déjà su repérer des esprits de premier ordre grâce à Caius Maecenas, un homme dont le nom reste autrement dit mécène. Ce riche aristocrate avait éprouvé les meilleurs sentiments pour Octave, l'avait soutenu, protégé dans les complots. Abandonnant la politique, Mécène avait ouvert sa maison à de nombreux jeunes épris de littérature et dans lesquels il voyait une pléiade de soutiens au nouveau État romain. Apparurent des génies qu'il pensionnait avec son énorme fortune. On put ainsi lire les œuvres de Propère, Stibule, Virgile, Tite-Live, Horace, qui se mirent à chanter la nouvelle civilisation désirée par Octave. Dans ce nombre, Ovid, de son nom latin Publius Ovidius Naso, se fit vite remarquer par des poèmes qui louaient la beauté romaine, ses héros, ses dieux, ses fêtes, les héroïdes, les fastes. Et ce furent ensuite les métamorphoses qui répandirent les mythologies, soit latines, soit grecques, avec un très grand succès. À la même époque, il entreprit une œuvre qui devait passer aux yeux du pouvoir pour trop révolutionnaire, l'art d'aimer. Œuvre révolutionnaire, car ni les Grecs ni les Latins n'avaient rien produit dans ce style fort loin de la politique, de l'histoire, de la philosophie ou de l'art oratoire, sujets exclusifs jusque-là. Or, cette œuvre fut en partie à l'origine du drame personnel, tout à fait inattendu, que devait vivre ce poète.